L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire.
Dans le vestiaire.
Ah, le vendredi, ah, les vacances, parce qu'il y en a qui tombent en vacances aujourd'hui. Cependant, il y a des possibilités d'averses. Je dirais même des orages. 30 % de possibilités d'orages dans les prochaines heures. Ce soir, 60 % de possibilités d'orages. Et demain, Saturday, demain, samedi. Ah, le samedi, on danse. Le samedi, on prend du vin. Mais on a des vacances aussi, mais avec de la pluie. Un 40 % de possibilités d'orages. Cette semaine, j'ai salué les gens qui nous écoutent par Internet dans le secteur de Charlevoix. Aujourd'hui, je vais saluer les gens qui nous écoutent sur le net dans la région de Québec. Avec l'arrivée de Mario Roberge comme chroniqueur, il y a plein de gens de Québec, entre autres un de mes bons amis qui s'appelle Martin Girard. Salutations, Chief! Il va écouter l'émission de la chronique de Mario Roberge qui sera avec nous, l'ancien joueur du Canadien, l'ancien matador de la Ligue semi-pro. Mario Roberge sera avec nous à 15h45. On va jaser de Formule 1. Il y a une nouvelle importante quand même aujourd'hui au niveau de la Formule 1. C'est que le président du Grand Prix de Montréal, François Dumontier, a remis sa démission. On va en reparler tantôt avec Jean-Michel Tremblay. Il sera question d'athlétisme et aussi, dans les prochaines minutes, de BMX. Mais aux Jeux olympiques, Félix Auger-Aliassime a gagné une médaille de bronze en compagnie de Gabriella Dombrowski en double mix, victoire de 6-3, 7-6 contre les Néerlandaises. Qui s'appelle, attendez un petit peu que je trouve les noms, contre les Debbie Schuchs et Kelly Kolkhoff. Félix Auger-Aliassime, qui en sera à son 10e match en 6 jours, va jouer maintenant, va tenter de remporter le bronze en simple. Il va affronter soit Djokovic ou encore l'Italien Lorenzo Musetti. Parce que Félix s'est incliné, oh, ça n'a pas été facile, contre Carlos Alcaraz, 6-1. Et 6-1. Autre médaille pour le Canada en trampoline. La Québécoise Sofiane Méthotte, qui est classée 11e au monde, eh bien, elle a réussi l'exercice de sa vie, je dois le dire, avec un pointage de 55,650 en trampoline. Alors, bravo à Sofiane Méthotte. Autre médaille, bronze. Du côté de la natation aux 200 mètres d'eau, le bronze pour Kelly Massé du Canada. Dans les autres résultats des Jeux olympiques de Paris, en basketball à 3, après avoir battu le Canada, après avoir battu, c'est-à-dire la Grèce et l'Australie, le Canada termine premier du groupe A chez les hommes. Et là, il y a une possibilité de médaille parce qu'il passe directement en quart de finale. Il y a la Grèce également et son joueur vedette, Giannis Antetokounmpo, qui a remporté son match de 77-71 contre la Grèce. Le basketball féminin, le Canada a défait les États-Unis. En athlétisme, course record pour, on va en discuter tantôt avec Gino Roberge, Audrey Leduc, qui termine avec un excellent chrono, première position, avec un chrono au 100 mètres et un record de 10,95 secondes. C'est elle qui détenait la marque, le record canadien, à 10,96 secondes. En décathlon, le Canadien Damien Narber a terminé troisième après 4 épreuves. Dans le volleyball de plage, le Canada qui bat l'Autriche 21-16 et 21-15. En judo, on a un gars de Montréal qui s'est incliné en 16e de finale En fait, je dis un gars, mais c'est une fille. Anna Laura Portoando. Et en water polo, l'Australie qui domine le Canada par 10 à 7. Et dans l'actualité de sport, l'actualité générale, je vous l'ai dit tantôt, le président et chef de la direction du Grand Prix de Montréal, François Dumontier, quitte après 30 ans. Il va agir encore, il va demeurer dans l'organisation comme conseiller stratégique. Il sera remplacé par Jean-Philippe Paradis. Jean-Michel Tremblay va nous en dire un peu plus long tantôt sur ce qui se passe du côté du Grand Prix de Montréal. Les Alouettes jouent ce soir contre les Tiger Cats de Hamilton au football canadien. Au baseball, les Jays commencent une série contre les Yankees de New York. Au baseball, les Voyageurs ce soir, on espère qu'ils ne seront pas attaqués par la pluie. Les Voyageurs contre l'équipe de U16 et demain, il y a un programme double contre Trois-Rivières. Il y a le tournoi Pee-Wee qui se poursuit au parc de la Colline. Et au hockey, en fin de semaine, c'est le début du camp d'entraînement des élites midgets dimanche. Et samedi et dimanche, au centre Mario Tremblay, c'est le tournoi 3 contre 3, ce qu'on appelle le hockey des Bleuins, avec entre autres Samuel Girard, Félix Gagnon des Saguenay-Chicoutimi, plusieurs joueurs des Marquis de Jonquière. Alors, on surveille ça du coin de l'œil. Et dans quelques instants, on vous en dit un peu plus sur la discipline du BMX qui est intégré aux Jeux olympiques de Paris.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Le 8 août prochain, ce sera la grande ouverture du métro Thibault, anciennement métro Sagami, dans sa toute nouvelle bâtisse. On engage. Viens porter ton CV maintenant. Le métro Thibault ouvrira ses portes le 8 août prochain. On vous attend.
Cet été, la Pulperie vous en mettra plein la vue avec ses spectacles d'humour. Richardson Zephyr le jeudi 22 août, Charles Beauchesne le jeudi 5 septembre et Tommy Néron le samedi 14 septembre. Plus de détails sur pulperie.com.
Derrière-le-volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière-le-volant.net.
Cliquez j'aime sur Facebook.
Ici Jacques Deshaies, je vous donne rendez-vous bien sûr à toutes les semaines pour l'émission Derrière le volant, de l'actualité, des essais et beaucoup de nouvelles. Tout ça à Derrière le volant.
Les samedis, 5 heures.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 ans. Employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez
l'Étoile Dodge Chrysler.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Une pensée de sport. Avant de parler de BMX, avec l'athlétisme qui est en cours actuellement aux Jeux olympiques et toutes les courses qui se déroulent partout sur la planète, voici ma pensée de sport. Même le dernier d'une course est devant ceux qui ne courent pas. Il faut être positif hein, dans le sport. Nathan Compartino, un spécialiste du BMX et du vélo de montagne. Bonjour.
Bonjour, ça va?
Très bien, avec la discipline du BMX qui est intégrée dans les Jeux olympiques de Paris. Puis vous autres, la famille Compartino, vous en êtes des spécialistes. Peux-tu nous expliquer un peu les grandes lignes du sport du BMX?
Oui, bien, effectivement. Le BMX, ça date, c'est un des premiers sports extrêmes sur deux roues. Ça a été un gros pas qu'il soit aux Olympiques cette année et la dernière année qui ont été. Le monde du vélo de ce type-là, ils ont vraiment se sont battus pour avoir ce sport-là aux Olympiques. C'est vraiment une grande histoire. Là. Je vous invite à aller lire sur Wikipédia au processus si ça vous intéresse.
Tu nous parles d'un sport extrême. Quelle est la hauteur des buts et des obstacles en BMX?
Ça dépend vraiment là, du skatepark, c'est de la terre ou quoi que ce soit, mais aux Olympiques, c'est ça qu'on parle. C'est quand même assez haut. Là. C'est en général, entre 6 pieds et ça peut aller jusqu'à 12 et 14 pieds, là, dépendamment de la grosseur des modules.
Si on aligne à côté de nous autres trois vélos, un vélo de montagne, un vélo de route puis un BMX, Il y a une grosse différence entre les trois?
Exactement. C'est la même passion quelque part, mais c'est différent de trois vélos en ligne. Là. C'est un pour la route, un pour sauter, puis un que tu peux aller faire tes sauts, mais dans des racines, puis ainsi de suite. C'est vraiment trois disciplines différentes.
Et quels sont les pays qui performent le mieux en BMX, Nathan?
Je te dirais que chaque pays a leur radar, comme je dirais en anglais, qui est fort. Je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de pays plus fort que d'autres, mais il y a des athlètes, surtout les États-Unis, ils ont eu pas mal les plus gros noms, je te dirais, dans ce sport-là. Mais gars, c'est l'Argentine qui a remporté la médaille d'or là, au final.
Je présume que pour performer et gagner en BMX, il faut être créatif dans le style et les figures. Tu es d'accord avec moi?
Exactement. Fait que c'est ça. C'est basé vraiment sur ton amplitude, sur la difficulté des figures, mais aussi sur l'exécution. Si c'est tout le temps atterri un petit peu croche, un pied qui glisse, quoi que ce soit, tu vas perdre des points, même si tu fais les plus grosses figures. Fait que c'est noté sur un ensemble de styles et ainsi de suite. Là, t'as pas rien qu'une chose à avoir pour faire du BMX. Il faut que tu aies au moins trois critères qui est justement avoir des gros tricks en réserve dans ta poche, avoir du style, puis avoir de l'amplitude, puis aller chercher de la hauteur.
Nathan Compartino, tu nous as parlé tantôt d'un sport extrême avec le BMX. Il y a donc des risques de blessures. Est-ce que ça devient difficile de trouver des participants?
Je dirais qu'aujourd'hui, que les athlètes, c'est comme je viens de te dire, c'est des athlètes. Fait qu'ils sont, je peux parler maintenant de l'histoire de Jeffrey Wally, qui est notre personne qui nous a représenté au Canada, qui lui vient de Montréal. Lui, il s'est blessé 6 semaines avant avant les Olympiques. Il s'est cassé l'épaule, je me trompe pas. Puis avec tout le travail, l'acharnement, la physio, puis tout, il a quand même réussi à participer. Puis tout le monde avait dit qu'il pouvait pas y aller. Fait que je te dirais que les athlètes se surentraînent pour les blessures. C'est sûr qu'il y en a qui se blessent, puis il y en a qui sont morts de ce sport-là. Il y en a qui sont.
Ah, il y a eu des décès. Il y a même eu des décès.
Si je me trompe pas, il y en a eu quelques-uns. Là. C'est pas des gros noms, mais c'est quand tu te mets un peu à voir l'histoire de ce sport-là.
Au niveau de la protection des athlètes, évidemment, vous êtes obligé d'avoir un casque, mais quelles sont les autres protections des coudes, des genouillères, etc.?
C'est par chacun, personne qui décide, mais oui, casque obligatoire. Après ça, il y en a qui c'est genou, tibia, puis protège cheville. Moi, c'est ça que je mets principalement, puis je sais que la majorité mettent ça aussi. Après ça, c'est des gants. Il y en a qui préfèrent pas avoir de gants, il y en a qui préfèrent avoir de gants. Après ça, il y a les mouthpiece aussi qui sont rendus dans ce sport-là.
Est-ce qu'il y a beaucoup de participants ici au Saguenay, puis même au lac?
Qui pratiquent ce sport-là, oui. Je parle de mon père, de son oncle, qui sont allés quand même haut au Saguenay, mais je te dirais que sinon, c'est plus du monde qui en font par passion et non pour aller professionnellement.
Bon, tes parents, oncle, ton père, étaient champions de BMX. Toi, tu t'es tourné, tu as fait du BMX, mais tu t'es tourné du côté du vélo de montagne extrême. D'ailleurs, tu es allé en Colombie-Britannique dernièrement. Raconte-nous comment ça s'est passé, Nathan Compartino.
Ça s'est très bien passé. C'est mon premier pas dans le pro. J'ai fait la catégorie que je participais, j'ai terminé 18e, c'est le niveau mondial, fait que c'est comme une 18e place mondiale. Je serais content finalement de très gros noms. Moi, c'était mon année rookie, fait que peu importe ce qui arrivait, j'étais content, c'est de l'expérience acquise. Puis l'année prochaine, écoute, j'en reviens là avec les forces d'eau, puis je m'entraîne cet hiver pour ça.
OK, tu as l'intention de poursuivre ta carrière au niveau du vélo de montagne extrême. Y a-tu des compétitions ici au Québec?
Oui, il y en a quand même. Là, je m'en vais, je sors du Québec un peu, mais je m'en vais au Nouveau-Brunswick, là, c'est à côté. Puis je dirais que oui, il y en a quand même assez beaucoup dans l'est du Canada. Québec, moins, mais mettons Ontario, Nouveau-Brunswick, dans ces places-là, il y en a quand même assez beaucoup. Là.
Alors, merci de nous avoir donné de l'info concernant le BMX. Et étant donné que tu es recru en vélo de montagne extrême, bonne chance et longue carrière. Attention aux blessures.
Merci à toi.
Au revoir. Dans un petit moment, Mario Roberge. Il s'ajoute à nos nombreux collaborateurs, nos nombreux analystes dans l'émission. Il a joué avec les Canadiens de Montréal. Il a disputé quelques matchs avec les Saguenayens de Chicoutimi. Mais il a été longtemps la grande vedette du hockey semi-professionnel. Mario Roberge, dans un instant, dans le vestiaire.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Non seulement la fromagerie Boivin fait le meilleur fromage au monde depuis des générations, le meilleur petit crémeux, la meilleure poutine, elle fait aussi de la magie.
J'aime tellement le fromage Boivin que j'en mets même dans mes céréales.
La fromagerie Boivin, fabricant de souvenirs depuis des générations.
Du 8 au 11 août, le Festival Gymkhana de Falardeau vous attend avec une très grande variété d'activités et de spectacles gratuits pour toute la famille à Place des Festivals, 51 rue des Chalets à Falardeau. Pour les activités, compétition équestre, derby d'attelage, grand prix de baril et de sauvetage, danse country, jump high, jeux gonflables, amuseurs publics et plus encore. Volet spectacle, les Johnnies, MGM Band, Rock Story et pour agrémenter vos fins de soirée, DJ Jello. Pour la programmation complète, visitez la page Facebook du Festival Gymkhana de Falardeau. Bienvenue aux campeurs!
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez...
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Il est 4h moins 4. Je vous l'avais dit cette semaine, on a un nouveau collaborateur très connu dans le monde du hockey qui s'amène avec nous, Mario Roberge. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que c'est rassurant d'avoir un homme fort dans notre équipe. Mario Roberge, bonjour!
Salut, ça va bien?
Très bien, merci beaucoup de te joindre à nous dans le vestiaire. Mario, je regardais ta carrière, ta très, très belle carrière dans le monde du hockey. Et tu as joué quelques matchs avec les Saguenay de Chicoutimi. C'était en quelle année? Puis raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
Ben moi, je suis venu au monde en 64. J'étais joueur de 20 ans. On avait droit seulement qu'à un à cette époque. Donc, faut que ce soit en 84 ou 83-84, Michel.
83-84?
Ben, j'imagine, je suis venu au monde le 25 janvier.
OK, alors tu étais joueur de 20 ans avec les Saguenayens?
Oui, on avait droit à un dans le temps.
Et qui était le coach des Saguenayens quand, quand tu t'es amené avec les Saguenayens? Qui était le coach?
Oui. C'était Mario Bazinet.
Avec Baz?
Les Saguenayens, je pense qu'on avait, on n'avait pas la même couleur. On n'avait pas la même couleur que vous avez. Là. Je sais qu'il a tout le temps été un genre de bleu. Mais dans mon temps, je pense que c'était un gris et un rouge.
Ah, oh, mon Dieu, oui, oui, t'as pas beau ce costume-là. Les pantalons longs.
Oui,
ah,
oui,
les
oui,
pantalons oui, longs avec Stéphane Richer, puis oui. Patrick Aymon, je me rappelle bien des joueurs. Jean-Marc Richard.
Oui.
Là, parce que tu me dis pantalons longs, puis je me rappelle des... Parce que je décrivais un match des Saguenayens dans le temps, là. Puis je me rappelle des pantalons longs, puis le gilet gris et orange. Oh, Avec qui? Tu jouais sur quel trio avec les Saguenayens?
Avec, c'était deux recrues, je pense. Marc Fortier et Marc Bureau.
Hey, deux joueurs qui ont connu toute qu'une carrière.
On était à sa troisième ligne, je pense.
OK. Puis t'avais été échangé des remparts de Québec aux Saguenayens de Chicoutimi?
Quand j'arrive à 20 ans, on avait droit à un seulement. Fait que les remparts ont opté pour mon joueur de centre qui évoluait avec moi, Claude Lefebvre, qui était un excellent joueur d'hockey. Et moi, je pense que Mario, ou en tout cas, les Saguenayens m'avaient communiqué. J'avais été faire un essai avec les Saguenayens, puis ils m'avaient signé. Comme joueur de 20 ans. Parce qu'il n'y avait rien qu'à un.
Puis même si tu n'as pas été longtemps avec les Saguenayens à Chicoutimi, qu'est-ce que tu retiens de ton passage au Saguenay dans le junior majeur?
Ça avait été tout un début de saison. Il faut quand même admettre que je ne jouais pas avec des pieds de céleri, là. Le futur après me l'a confirmé parce que j'avais quand même deux bons joueurs dans le camp avec moi. Ça allait très, très bien. Mais on a eu une série de blessures à un moment donné, juste avant la date limite des transactions.
Là, ça a changé l'équipe pas mal.
Ben, on a eu deux défenseurs, je pense que c'était Christian Duperron, René Lécuyer qui arrivait. Ouais. Je me souviens parce que ça fait longtemps, ça fait 40 ans de ça.
Non, ça ne nous rajeunit pas. Puis quand tu as terminé ton stage avec les Saguenayens, tu t'es retrouvé à Rivière-du-Loup, puis le coach là-bas à Rivière-du-Loup, on le connaît très bien parce qu'il a été longtemps entraîneur à Chicoutimi.
C'était Gaston Drapeau. Pour aller vite, là, c'est sûr qu'on a eu deux défenseurs de blessés. Mario m'appelle dans le bureau. Il dit, Mario, il dit, j'ai pas le choix, il faut que je me cherche un défenseur avant la date limite. Il me libère. Fait que moi, je me retrouve, avant la date limite, je pense que c'était la veille. J'arrive chez moi. J'ai plus de place. Je peux plus vraiment me trouver une place à jouer. Puis c'est là que mon père a dit, Mario, ben, on va aller à Rivière-du-Loup, tu vas t'en aller jouer dans la Ligue républicaine. Ben, c'est la seule Ligue senior qu'il y avait dans ce temps-là. Même à Québec, il n'y avait même pas le semi-pro encore dans le temps.
Il s'était pas arrivé. Mais Mario, ce qui m'impressionne, c'est que tu es passé de la Ligue républicaine, pas directement parce que tu es allé dans la Ligue américaine, là, oui. Mais tu as joué dans la Ligue républicaine, tu t'es retrouvé dans la Ligue nationale de hockey. Il ne doit pas en avoir qui ont réussi ça. Là.
Ben, je pense que je suis seul sur la planète. J'ai joué 2 ans à Rivière-du-Loup. Alors, j'ai 20 ans. Alors, j'ai 21 ans. Ensuite, on a été parce que mon frère est venu me rejoindre à Rivière-du-Loup. Et ensuite, on s'est ramassé dans la Atlantic Coast Hockey League. Il appelait ça la ACHL. On a été joué à Roanoke, Vinton, en Virginie. C'était une ligue à 4 équipes. On faisait jusqu'à 13 heures de route en autobus pour aller jouer un match. L'autobus se transformait avec des lits. On avait tous des lits. Et mon entraîneur, dans ce temps-là, ben, on a gagné le championnat, on l'a tout gagné en passant. Et je vais en surprendre plusieurs. Là. Mon entraîneur, quand j'ai gagné le championnat avec mon frère Serge en Virginie, c'était John Tortorella.
Le John Tortorella qu'on connaît?
Oui.
Ah oui, t'as joué pour lui. Est-ce qu'il était dur comme coach?
Oui.
Oui, hein, il a toujours été dur, hein? Oui,
on a eu une couple de frictions au pied de lui, mais c'est un gars qui sait comment faire, on dirait, pour réchauffer quelqu'un, tu sais, de challenger. Puis je pense que ça a toujours continué dans son cas. Puis je pense qu'il faut y rendre crédit parce que c'est un gars qui a gagné pas mal partout ce qu'il a été, là, John.
Quand tu dis Mario Roberge, je vais en surprendre plusieurs. Je n'étais pas au courant que tu avais joué au hockey pour John Tortorella. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, là.
Non. Tu n'as pas fini de l'entendre. Après ça, je me suis ramassé à Terre-Neuve.
OK.
Et ça, c'est tout le temps en allant faire des camps d'entraînement ici et là. Puis on a fait des camps d'entraînement avec l'Express de Federica, mon frère Serge. On allait remplir des chandails. Parce que dans ce temps-là, là, les Nordiques de Québec puis les Canucks de Vancouver... leur affiliation, parce que les deux avaient une affiliation à Fredericton, c'était l'Express de Fredericton. On allait remplir les chandails en attendant que les voix soient redescendus. On a fait des camps d'entraînement possibles. Les mêmes nous humains avec Mike Mayberry, encore une fois pour remplir les chandails. Et quand les joueurs redescendaient, mais ils nous libéraient, je me suis ramassé à Terre-Neuve, à Port-au-Basque, dans le Seigneur 3A, à l'âge de 24 ans. Et mon frère Serge, lui, il est arrivé un mois par la suite parce que le club contre qui on jouait, qui s'appelait les Jets de Stephenville, parce que c'était encore une ligue à 4 équipes, j'ai dit à l'organisation, j'ai dit, mon frère va... Parce qu'on prenait le traversier, j'aime. On partait, nous autres, en voiture, on s'en allait au Cap-Breton, et là, on prenait le Caribou, le traversier, pour traverser jusqu'à la pointe de Terre-Neuve, qui s'appelle Port-au-Basque.
Oui.
Et là, mon frère Serge, lui, j'ai dit à l'organisation, ils s'en vont jouer à Stephenville, mais on va l'intercepter, nous. Et là, c'est là que ça a commencé, les frères Robert de la Port-au-Basque. Un mois après, on me mettait joueur entraîneur. Et c'est là que mon histoire a commencé. Mais je ne peux pas commencer.
Non, mais je ne veux pas que tu te racontes toute ton histoire.
On en arrête pour 2 semaines.
Oui, mais on en a pour plusieurs semaines à se parler tous les vendredis. Ah, ce ça. Que je veux entendre de toi... Avec ce que tu nous racontes, Mario Roberge, tu as joué dans la Ligue républicaine, tu as joué dans des circuits mineurs aux États-Unis. Quand tu t'es retrouvé dans la chambre des Canadiens de Montréal, hey, tu as fait un step, tu sais, tu pars de la Ligue républicaine, là, tu te retrouves une couple d'années après dans la chambre des Canadiens de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête cette journée-là?
Ben, j'ai signé mon premier contrat professionnel en 1988 à Sherbrooke, parce que le club école était à Sherbrooke. Pat Bon, il venait d'être promu entraîneur et c'était l'arrivée de Jean Vell et Claude Larose, qui était son assistant. Pas Claude Larose qui a joué pour le Canadien.
Un autre Claude Larose, ouais, c'est plus jeune. Là.
Et là, j'ai joué 2 ans à Sherbrooke. Et là, on a transféré le club de Sherbrooke à Fredericton. En 91.
C'est là que tu étais rappelé?
Et c'est là que j'arrivais de la chasse avec mon chum Jacques Parent. Lui, il avait sa maison mobile là-bas. Je restais en pension là-bas. Et puis avec lui. Et c'est là que j'arrivais tout bonnement au Henkin Center à un moment donné. Puis Paulin Bordelot qui était rendu entraîneur parce que Jean avait décidé de pas quand ils ont transféré le club de Sherbrooke à Fredericton, Jean a décidé de rester à la maison. Et c'est Paulin Bordelot qui est devenu entraîneur. Et là, ben, c'est là qu'André et Paulin m'ont demandé si j'étais prêt. Puis moi, je lui ai répondu que j'étais tout le temps prêt. Ils m'ont dit, t'as besoin de l'aide parce que tu prends l'avion, tu s'en vas rejoindre le club à Philadelphie.
Les Canadiens de Montréal, là.
Je m'en ai rejoint le grand
club. Et là, tu rentres dans le grand club, dans la chambre du grand club. Nomme-nous les joueurs vedettes qui sont dans la chambre du Canadien, ça doit être impressionnant.
Ben, quand j'arrivais, premièrement, j'arrivais dans la nuit.
Okay.
Je savais même pas c'était qui mon coloc. J'ai rentré dans la chambre. J'ai ouvert le...
La chambre?
Tranquillement. On était tous... On était jumelés avec... On était tous en deux dans la même chambre dans ce temps-là. J'ai ouvert la porte du garde-robe et c'était Guy Carbonneau qui était mon...
Ton co-chambreur?
Oui. Et là, j'ai rentré sur le bout des pieds. Je me suis couché sans le réveiller. Et le lendemain matin, on s'est donné la main. Il m'a souhaité la bienvenue. Et là, quand j'arrive au Spectrum, c'est là que Pat et Claude Lemieux ont eu comme un genre de différent. Et on a échangé Claude Lemieux, je pense, aux Devils. Juste avant.
Oui, c'est vrai, il avait été échangé aux Devils du New Jersey.
Quand j'ai arrivé au Spectrum, Pat m'attendait dans le corridor. Puis là, ben, il a ouvert la porte du vestiaire. Puis là, c'est là que mon numéro 32 a apparu. Qui est devenu mon numéro.
C'est-tu toi qui l'avais demandé, le 32? C'est-tu toi qui l'avais demandé, le 32? Ben, il est arrivé comme ça?
Non. C'est eux autres.
C'est eux autres qui ont décidé que Mario Roberge allait porter le numéro 32.
C'est ce que Pat me dit. Mario, ton numéro, je suis pas en amour avec, mais si t'es différent, ça devrait bien aller.
Là, c'est Pat Burns qui coach les Canadiens, là.
Oui. Okay. Et c'était ma première bagarre dans l'Union nationale.
C'était avec qui?
Vous allez voir sur YouTube contre Bill Kouchner, que je connaissais parce que lui aussi arrivait des mineurs. Et c'est comique parce qu'après la bagarre, ben lui, Kouchner, je l'ai pincé de l'aplomb, mais il monte le banc du Canadien après mon combo au Spectrum. Et tu vois Pat qui est en arrière du banc, tu vois Brian Skoglund, Guy Carbonneau, Stéphane Richer, ils sont tous là, puis ils sont pas debout en train de frapper sa bande là, comme on voit aujourd'hui.
Non, ça a changé un petit peu.
Autres, ils disent, il arrive un gars des mineurs, puis il commence à vouloir faire de l'action un peu, parce que moi, dans le fond, je n'étais pas un gars de la gang, je venais d'arriver. Là.
Ah ouais. Hey Mario, avant de se quitter, le Canadien a signé à Bert Jekai cette semaine, un homme fort comme toi.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de cette signature de contrat-là? Le Canadien a besoin d'un homme fort comme Jekai, puis lui, c'est un solide, ça a de l'as, là.
Je peux te dire, Michel, que mon ego en a mangé toute une. Dernièrement, ça n'a pas été facile. Quand que j'ai entendu, je ne sais pas c'est qui a décidé, mais on veut éliminer les bagarres, on veut éliminer ce type de joueur, puis je me suis dit tout le temps, on est en train de dire que tous les gars de mon style n'avaient pas leur importance. Et ça m'a affecté. Ça m'a affecté, puis je pense que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul des... qu'on appelle les directeurs, les redresseurs de tort, les policiers.
Les goons, tu sais, on va employer le mot, là, les goons.
Les goons, ça se tient après la bande.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, les goons, ça se tient après la bande. Ouais, tu sais,
ça
petit
détail. Ça se tient après la
bande, les goons. Ouais, t'es un bon petit... Ouais.
Ça m'a affecté drôlement, puis ça, ben, je me disais, comment est-ce qu'on peut former une équipe de hockey sans protéger ses joueurs vedettes? C'est un non-sens.
D'ailleurs, c'est le problème de la Ligue junior majeure du Québec. On n'en veut plus d'hommes forts.
Bien, la Ligue junior du Québec, le problème qu'on va avoir là, bientôt, bien, déjà là que les Québécois sont plus vraiment à la mode, on dirait. Et là, ça va l'être encore moins parce que je me mets à la place des dépisteurs. Tu as le choix entre un gars de l'Ontario, un gars de l'Ouest ou un gars du Québec, mais on veut savoir quelle sorte de caractère que les joueurs ont. Bien, il y a des ligues qui ont le droit d'y aller au bout du point une fois de temps en temps, puis il y a d'autres ligues qui n'ont pas le droit. Ça va nous affecter.
Mario Roberge, il fait quoi là dans le monde du hockey? T'es-tu encore impliqué? Parce que tu as été instructeur l'année passée, je pense, d'une ligue de hockey.
Non, ça fait quand même un bout.
Tu fais un petit bout que tu as lâché, ouais.
Parce qu'à Québec, il n'y a plus rien. Il y a rien qui les remporte.
Mais là, quoi qu'ils reviennent avec une équipe dans le semi-pro, là, après tant d'années d'attente?
Bien, j'ai été rejoindre Serge avec le paramédic à Jonquière.
Oui, c'est vrai, tu étais avec le paramédic.
Moi, j'ai tombé entraîneur.
Ouais.
Ça, j'ai bien aimé mon expérience. Mais il reste que après ça, là, ici à Québec, il n'y a plus rien. On n'a plus de semi-pro, on n'a plus de... On a rien que les remparts, en fond, ouais. Ici à Québec.
On aura sûrement l'occasion, Mario, parce qu'à chaque vendredi, on va se parler régulièrement. On aura sûrement l'occasion de revenir sur ta carrière et d'écouter tes nombreux commentaires. Merci beaucoup d'avoir cassé la glace aujourd'hui.
Ben oui, baisez-moi avec.
Merci. Mario Roberge, l'ancien numéro 32, les Saguenayens de Chicoutimi. Félix Auger-Aliassime a gagné une médaille de bronze avec Gabriella Dabrowski en double mixte au tennis. La Québécoise, c'était Joanie Métaux. A également remporté une médaille de bronze en trampoline et l'autre médaille de bronze aujourd'hui en natation aux 200 mètres d'eau par Kirley Massé. On aura l'occasion de parler d'athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo avec Gino Roberge dans un moment.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Ne manquez pas tous les jours de semaine l'émission du matin la plus près de vous. Réveillez-vous avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Entrevues, chroniques, histoires, politiques, tout ce qui touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel.
Réveillez-vous dès 6 heures tous les matins de semaine au 92.5, ma radio d'ici.
Bonjour à tous, ici Alain Plante. Pour la belle saison, je vous convie du mardi au vendredi minuit à Cargo Nuit 100% live, version estivale. Au menu de minuit à 3h, les meilleurs succès pop et rock, le quart d'heure New Country, la météo des sports et la une des journaux et des sites web. De 3h à 5h, la meilleure musique pop, rock et New Country sans animation. Et de 5 à 6, l'heure Cargo New Country. C'est donc un rendez-vous tout l'été du mardi au vendredi de minuit au 92.5, la radio d'ici.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés. Employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez
L'Étoile Dodge Chrysler.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifaut et Dominique Bolduc.
Il y a du baseball ce soir au stade Richard Desmolles. Les voyageurs qui accueillent l'équipe U16, ce sont les joueurs étoiles, les futurs bons joueurs de baseball de la Ligue junior au stade Richard Desmolles. Demain, programme double pour l'équipe des Voyageurs contre Trois-Rivières. Football de la Ligue canadienne, les Alouettes jouent ce soir contre les Tiger Cats de Hamilton. Aux Jeux olympiques de Paris, c'est l'athlétisme depuis quelques jours. Difficile de ne pas en parler. J'ai demandé à un spécialiste d'athlétisme ici dans la région, Gino Roberge, de nous parler de ce qui se passe là-bas dans ce sport extrêmement populaire. Gino Roberge, bonjour!
Salut!
Qu'est-ce qui retient ton attention depuis le début de l'athlétisme aux Jeux?
Ben, honnêtement, c'est sûr que ce matin, là, Audrey Leduc, là, la Québécoise qui a volé littéralement sur sa vague de qualification aux 100 mètres en remportant, en se qualifiant pour les demi-finales et du même coup en battant un record canadien à 10,95 secondes. Ça a été là, vraiment, là, selon moi, là, le plus beau moment là, canadien là, de l'athlétisme depuis le début des Jeux.
Là, on ne calcule pas les secondes quand il est question du 100 mètres. On calcule des demi-secondes puis des quarts de seconde.
Des centièmes de seconde.
Parce qu'elle, c'est 90-95 centièmes, c'est bien ça?
C'est 10 secondes 95 centièmes. Ça lui donne présentement, avec toutes les qualifications, ça lui donnerait le sixième meilleur temps. Là. Donc, on aurait peut-être une possibilité, tout dépendamment demain comment la demi-finale va se passer, on aurait peut-être une possibilité de voir une Canadienne en finale, une Québécoise en finale, ce qui n'est pas arrivé depuis des années et des années.
Hey, réussir à sauver une seconde dans le 100 mètres, il faut le faire. Quel est le record? 9, c'est 9 secondes combien là, pour le record mondial pour le 100 mètres?
Les gars, c'est 9,79, je crois. C'est encore Usain Bolt qui le détient. Au niveau des filles, là, ça n'a pas cassé le 10 secondes encore. C'est un 10 secondes très bas là, qu'on appelle dans le monde de l'athlétisme, mais ça n'a pas encore cassé le
10 secondes. Étant donné qu'on coupe les secondes en deux, les chronomètres doivent être d'une précision chirurgienne.
Mais rendu là, c'est vraiment des photos finish qu'on
appelle. Ah, c'est des photos finish, on n'a pas le choix.
Oui, à partir du moment où le départ est donné, les chronomètres décollent. C'est un genre de faisceau laser qui passe à la ligne d'arrivée. Quand les personnes traversent le faisceau laser, on arrête le temps immédiatement. On n'est plus, on serait pas capable de faire comme dans le bon vieux temps, les chronomètres manuels avec le pouce. Là. On est rendu avec une technologie là, qui est hyper, hyper, hyper évoluée. Je viens juste d'écouter la finale du 10 000 mètres. Il y a eu 33 centièmes de seconde entre le premier et le quatrième. Puis on parle de 10 km.
Ouais.
Donc, c'est rendu, c'est très, très, très technologique au niveau du chronomètre.
Tu nous as parlé d'Usain Bolt tantôt, qui a été l'une des grandes vedettes internationales. Il est rendu où, lui? On entend moins parler un peu.
Usain a peut-être pris sa retraite après les derniers Olympiques. Là, il avait fait le tour un petit peu, je pense. Il a essayé de faire il a essayé de jouer dans une équipe professionnelle de soccer. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a essayé le baseball aussi. Mais je pense que de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on peut voir, il se promène, voyage beaucoup. On s'entend que Usain a beaucoup plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Donc, je pense qu'il profite là, de
même
de
si c'est un athlète amateur, il a fait beaucoup, beaucoup d'argent avec sa popularité. Entre autres, son fameux signal, là,
Les commandites.
Les commandites avec son positionnement après la course. Là.
C'est exactement ça. C'est sûr que les Jeux olympiques, en tant que tels, c'est pas là que les athlètes peuvent aller chercher des gros sous. Mais quand on parle de la Diamond League, Usain Bolt pouvait demander 1,5 million pour aller courir un 100 et un 200 mètres dans une compétition de la Diamond League. Ça demeure pour eux un travail, puis ça demeure quand même les meilleurs athlètes internationaux. Pour eux, c'est un gagne-pain. Je te dis pas qu'ils ont le même salaire que nos joueurs de hockey, là, mais ils sont pas mal pris. Là.
C'est probablement l'un des Olympiens les plus connus.
C'est selon moi l'athlète toute catégorie
confondue,
sport confondu le plus connu au monde.
Ouais.
L'athlétisme étant la discipline reine des Olympiques, Bolt a traversé le temps, a traversé les époques avec une splendeur et un charisme exceptionnel. Selon moi, c'est vraiment l'athlète le plus connu présentement. Là. Qui a été le plus connu, le plus populaire sur la planète là, dans son apogée.
Bon, là, on vient d'analyser le record, la course record d'Audrey Leduc. Qui, à part ça, s'est démarqué? Evan Dundee, cinquième au 20 km marche. Faut pas l'oublier, la marche aux Jeux olympiques.
Ben non, cette année, en plus, il y a une nouvelle épreuve que j'ai hâte de voir. C'est la marche, un marathon en relais à la marche. Je pense que c'est la première année que ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu au cours des prochains jours. On a enlevé le 50 km marche pour mettre le marathon en relais. Et Dundee, justement, là, a terminé là, en cinquième position. C'était son dernier tour de piste, un petit peu choquant. Il était quand même très proche d'un podium. Il avait terminé quatrième à Rio, quatrième à Tokyo, et il termine sa carrière là, à Paris avec une cinquième position. Ça a été la première épreuve d'athlétisme qui a été disputée. Très belle épreuve. Il a été dans le coup tout le long. On l'a vu tout le long. Ça, c'est encore une fois, c'est un 20 km qui se gagne sur les 100 derniers mètres. C'est ça qui est plus crève-cœur là-dedans, là, d'avoir travaillé autant. Mais c'est ça, c'est la beauté du sport.
Et on les oublie souvent, les marcheurs, les marcheuses, parce que oui, la course est importante. T'sais, on n'a qu'à regarder la course des Pichoux. Il y a de nombreux coureurs et coureuses qui s'inscrivent, mais plein de marcheurs, marcheuses aussi. Là.
Il y a plein de marcheurs, marcheuses. C'est sûr que la marche rapide ou marche olympique, qu'on appelle communément, est un petit peu... je te dirais là, qu'il y a beaucoup de questionnements présentement là, au niveau de l'athlétisme. Est-ce qu'on la retire? Est-ce qu'on continue à l'avoir? C'est des choses qui sont discutées parce que ça demeure un sport qui est jugé. Puis honnêtement, le 20 km marche, Michel, il n'y a pas grand gars qui court à cette vitesse-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là.
Ah, ouais.
Meilleurs coureurs, oui, là, qui font, mais moi, je cours pas à la vitesse que ces gars-là ont fait. On parle de 1h19 là, pour 20 km. Ça donne à peu près 2h40 au marathon.
Qu'est-ce qu'ils ont dans les jambes? Ils ont une technique incroyable.
Ben, d'un, c'est le mouvement du bassin.
C'est le mouvement du bassin, oui.
Qui est très, 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 tu sais, qui est très, très fluide. Les bras aussi qui propulsent beaucoup vers l'avant. Mais c'est ça, la marche devient de plus en plus contestée parce que le premier règlement de la marche, c'est d'avoir toujours un pied en contact avec le sol. Quand on prend le temps de regarder aujourd'hui avec les ralentis, on se rend compte que les marcheurs n'ont pas toujours un pied en contact avec le sol. Donc, au niveau des fédérations nationales et internationales, il y a beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on devrait garder la marche olympique dans les programmes d'athlétisme ou est-ce qu'on devrait l'enlever. Je sais que dans certaines compétitions provinciales et nationales, on a déjà commencé à la retirer, à l'enlever des programmes. Donc, on fait des événements plus de marche. Exemple, comme ça serait un événement de course de trail, bien, c'est un événement de marche olympique, mais ça ne fait plus partie des compétitions d'athlétisme en tant que tel.
Au 1500 mètres course, qu'est-ce qui se passe avec notre Québécois Charles-Philibert Thibouteau? Est-il encore dans le décor?
Il est encore dans le décor. Pas été facile ce matin. Un des coureurs les plus âgés du groupe, là, Charles a 33 ans, un petit gars de Québec, un petit jeune homme hyper sympathique. Dernier tour de piste aussi pour lui, là, c'est ses derniers Olympiques. Malheureusement, a terminé 14e de sa vague. Donc, ne s'est pas classé pour les demi-finales. Kieran Loeb de la Colombie-Britannique, l'autre Canadien, ne s'est pas classé non plus. Ils ont quand même une chance de se reprendre demain après-midi. On a ce qu'on appelle la ronde de repêchage. Les 6 premiers aux 1500 mètres passés en finale, on va aller chercher 8 ou 12 personnes avec les deux rondes de repêchage. Donc, Philibert Thibouteau va devoir donner là, la performance de sa vie là, demain si il veut continuer là, son parcours olympique.
Et en décathlon, Damien Wadner, qui est deuxième après deux ou trois épreuves. D'abord, explique-nous qu'est-ce que c'est le décathlon?
Décathlon, on parle de 10 épreuves de l'athlétisme. Le sprint, saut en hauteur, les haies, la perche, le lancer du javelot, le lancer du poids. On touche à peu près toutes les disciplines. Damien était en deuxième position après trois épreuves. Malheureusement, ses deux dernières épreuves ont été un petit peu plus difficiles. Donc, après cinq épreuves, il est présentement en quatrième position à 89 points de la tête de la médaille d'or. Damien est le champion olympique en titre. C'est lui qui avait là, remporté le décathlon à Tokyo lors des derniers Jeux olympiques. On espère que demain, il va être capable de remonter. Je prédis quand même peut-être un podium pour lui, mais la médaille d'or, même argent, va être très, 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 très difficile à aller chercher. Encore une fois, nos athlètes canadiens sont bons longtemps. C'est quelqu'un là, qui est dans ses derniers Jeux, là, mais que présentement, là, on regarde les Américains, les gars de la Grande-Bretagne, les Norvégiens qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont plus un petit peu, on voit qu'ils sont plus rapides, c'est normal aussi, là, mais ça va être probablement difficile là, pour Damien Wadner d'aller chercher là, un podium à Paris.
Et il y a une discipline de sport que l'on parle très rarement dans notre émission, c'est le lancer du marteau. Explique-nous un peu les grandes lignes, quelles sont les meilleures. Ce ne sont pas des ouvriers de la construction qui sont les meilleurs au lancer du marteau.
Non, vraiment pas. On parle là, d'un marteau, on appelle ça le marteau, c'est le lancer du marteau. On parle d'un poids de 16 livres.
16 livres?
C'est 16 livres. 16 livres. Le poids, il pèse 16 livres, qui est au bout d'une corde et d'une poignée métallique. Une corde d'à peu près là, 24 ou 28 pouces, je n'ai pas les dimensions exactes. Et avec une rotation, on prend de la vitesse et on essaie de lancer le marteau le plus loin possible. On n'a jamais été figure de proue pour les Canadiens. Là. Ça n'était pas quelque chose qui était super connu chez nous. Et là, on a deux personnes là, qui, dans les dernières années, deux gars de la Colombie-Britannique qui ont révolutionné le marteau au niveau canadien et au niveau international. Après les qualifications ce matin, première position, deuxième position, deux Canadiens, Ethan Katzberg et Juan Hamilton. Juan Hamilton, aucune défaite au cours des deux dernières années. Toutes les compétitions qu'il a participé, il les a tous gagnées. Ce matin, il a eu le meilleur lancé là, avec un jet de 79 mètres. On peut penser là, demain pour la finale là, qu'on aurait au moins une ou deux chances de médaille là, pour cette discipline-là, pour le Canada, ce qui serait, dans l'histoire olympique, une première.
Et pour compléter notre entretien sur l'athlétisme, je veux revenir sur la performance et les records, les nombreux records de Usain Bolt. Faut pas oublier qu'à l'époque, quelques années avant, il y a un dénommé Ben Johnson qui avait réussi un pointage extraordinaire, mais il avait été éliminé pour dopage.
C'est où le 88-9-89? Ben Johnson avait été sacré grand champion grand champion olympique devant Carl Lewis, son rival de tous les temps. Malheureusement, la douche d'eau froide est tombée très rapidement sur le Canada. Là, puis après ça, Ben Johnson avait été testé positif au stanazonol, un stéroïde anabolisant qui n'est pas légal.
On en a un autre, un très bon 100 mètres. Faut en parler, c'est André Degrasse.
Ben moi, c'est ce qui est à surveiller demain. En fin de semaine, on a une grosse fin de semaine d'athlétisme. Et demain, c'est le retour sur la scène olympique là, de André Degrasse, qui 6 médailles olympiques dans les 2 derniers Jeux, que ce soit à Rio ou à Tokyo. Présentement, a eu des difficultés au cours des dernières années, aux 100 mètres et aux 200 mètres. Beaucoup de blessures, des problématiques avec la COVID. Il a été très, 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 très affecté par la COVID. Donc, on a hâte de voir, mais selon moi, et selon ce qu'on a vu un peu, là, on peut quand même penser là, que Degrasse devrait se retrouver sur le podium. Il devrait courir à 4h35 cette nuit. Donc, pour ceux et celles qui veulent se lever, sa première qualification a lieu ce soir.
Gino Roberge, merci beaucoup de nous avoir parlé d'athlétisme.
Plaisir.
Au revoir. Il sera question de Formule 1 dans un instant. On va revenir sur le Grand Prix de la Belgique la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on apprend que le président et chef de direction du Grand Prix de Montréal, François Dumontier, quitte son poste. Tous les détails dans un instant avec Jean-Michel Tremblay.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Vous êtes nombreux à adorer l'ambiance familiale du restaurant 4 Chemins.
Ouais, mais Dom, il y a les travaux de réfection sur le pont sur la rue du Vieux-Pont.
C'est pas grave, on fait le détour, car au restaurant 4 Chemins, ça vaut le détour.
Et en voici les raisons.
L'excellente pizza déjeuner, le club déjeuner.
Wow!
Les assiettes garnies et avec du goût.
Le menu du jour avec une soupe, plat principal et dessert avec un choix des plus variés et c'est savoureux.
Et que dire des prix qui sont abordables?
Le restaurant 4 Chemins, 2234 rue Saint-Jean-Baptiste. Baptiste Jonquière, ouvert de 5h le matin à 14h, et ce, 6 jours sur 7.
Ça vaut le détour! Besoin de pneus, de roues, de jantes pour votre voiture, votre pick-up, votre camion pour la belle saison. Paysan imbattable! 696-0597.
La chronique F1 avec Jean-Michel Tremblay. Une présentation de location de chalet Habitat Boréal et de la microbrasserie Opéra qui vous invite à écouter le podcast Le Paddock.
Allô, Jean-Michel Tremblay.
Hey, bonjour Michel.
Surpris de la nouvelle aujourd'hui, le président, chef de direction du Grand Prix de Montréal qui quitte son poste. Il était du groupe de course Octane.
Ben écoute, c'est une nouvelle qui n'était pas attendue, je pense. Honnêtement, j'ai pas vu de choses passer là-dessus dans les derniers temps. Mais effectivement, après 30 ans quand même de loyaux services pour François Dumontier, donc on décide de céder sa place quand même. François Dumontier qui a commencé en 1994 comme coordonnateur des opérations aux côtés de M. Legault à l'époque, là, Normand Legault.
Normand Legault, oui.
Le grand Manitou du Grand Prix de Formule 1. Donc, il a pas mal appris du meilleur. Je pense que c'est pour ça qu'en fondant son entreprise Octane, qui a vendu à Bell en 2021, c'est pas probablement pour ça qu'il a quand même réussi à monter une entreprise qui était aussi intéressante. Donc, en 2021, quand on a vendu à Bell, et lorsque l'arrivée des capitaux de Bell aussi, je pense que ça a sauvé beaucoup la Formule 1 à Montréal, parce que selon que François Dumontier nous rapportait aujourd'hui. Après la pandémie, on ne savait pas si on allait être capable de se relever de tout ça. Donc, avec l'arrivée du géant des télécommunications Bell, qui s'est porté acquéreur de Octane, ben, ça a donné un deuxième souffle à tout ça. Et là, je pense que ce que Dumontier faisait dans les 3 dernières années, c'était un petit peu d'assurer l'avenir.
Mais somme toute, peut-on dire que François Dumontier a livré à marchandise?
Oui, honnêtement, je pense que oui, parce que le Grand Prix du Canada, surtout depuis le retour de la pandémie, c'est un succès phénoménal. Donc, oui, la popularité de la Formule 1 a à voir avec ça. Et même Dumontier mentionnait aujourd'hui dans ses commentaires qu'avoir déjà les renouvellements qui ont été envoyés pour l'édition 2025, on s'attend à ce que les fans de Formule 1 soient de retour en très grand nombre l'année prochaine. Donc, je voudrais que depuis justement 2021, là, c'est un énorme succès, la Formule 1 à Montréal, et c'est sold out. Donc, c'est rempli à pleine capacité. Juste pour vous donner un exemple, avant la pandémie, on était capable d'acheter des billets pour le Grand Prix sur des sites, des fois où on fait des promotions deux pour un ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça se vend aussi vite que dans le bon vieux temps que les Canadiens faisaient les séries. Donc, il faut être rapide.
Ça fait longtemps, ça, là, les Canadiens qui faisaient les séries. François Dumontier sera remplacé par Jean-Philippe Paradis, un produit de Bell Media également. Qu'est-ce qu'on sait sur lui, à part qu'il travaille pour Bell Media?
Ben effectivement, on ne sait pas grand-chose sur lui. Donc, à ce moment-là, on parle plutôt de cadres qui vont justement prendre la place. Lui, d'ailleurs, il va quitter son poste du côté de chez Bell Media. Il était vice-président du côté de chez Bell. Et là, on va s'en aller prendre la place de président et directeur général, bien sûr, du côté de chez Bell Octane. Donc, on a changé un petit peu le nom là, quand Bell s'en est porté acquéreur. Et je crois qu'il y a aussi une dame qui va occuper des fonctions dirigeantes avec lui. Là. Donc, Mme Sandrine Garneau, en fait, qui elle, est directrice générale du côté du groupe Octane. Donc, Mme Garneau était déjà en place. Et là, ben, elle va être appuyée par M. Paradis, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, qui lui devient PDG d'Octane. Donc, je pense que ces gens-là, ça faisait quand même longtemps aussi qu'on côtoyait François Dumontier. Donc, un petit peu à la même chose que M. Dumontier côtoyé Normand Legault pendant plusieurs années. On a appris, je crois, à l'école des bonnes personnes. Si on regarde un peu le parcours peut-être des dernières années de M. Dumontier, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question aussi, à savoir, bon, avec ce qui s'est passé lors de la dernière édition du Grand Prix, les conditions météo, il y a plusieurs reproches qui ont été adressés à l'organisation du Grand Prix. Et il y a même le grand patron de la F1, M. Stefano Domenicali, qui a dû s'excuser aux écuries parce qu'il y a des tentes d'hospitalité qui ont été inondées. Certains secteurs du circuit, il y avait de la boue partout. À un moment donné, le vendredi, il y avait des informations contradictoires. La police mentionnait aux gens dans le métro que le site était fermé alors que ce n'était pas le cas. Il y a eu beaucoup de cafouillage. Donc, est-ce que ça a un lien? On ne le saura jamais, malheureusement. Mais par contre, moi, je garde un très bon souvenir de M. Dumontier en tant que promoteur du Grand Prix. Et souvent, le Canada a été cité en exemple pour des nouvelles villes qui voulaient accueillir des Grands Prix, grâce entre autres à M. Dumontier, au professionnalisme de son organisation.
Et là, il y a un congé qui est quand même assez long là, pour les prochains week-ends en Formule 1. Prochaine course, ce sera repris dans les Pays-Bas du 22 au 28 août. Pourquoi une pause aussi longue en plein milieu de l'été?
Ben, c'est en fait que depuis le calendrier a atteint 20 Grands Prix, c'est difficile, pas pour les pilotes, parce qu'on s'entend que les pilotes, après chaque Grand Prix, par exemple, après le Grand Prix de Belgique, 15 minutes après, les pilotes sont déjà en train d'embarquer dans leur jet privé, puis eux, les vacances sont commencées, mais c'est plus pour les équipes de soutien. Hein, parce qu'on sait que maintenant, on a 24 Grands Prix quand même dans une saison, et c'est difficile pour les mécanos, et surtout les gens qui montent les sites à chacun des Grands Prix. Donc, je pense que c'est une pause qui est quand même bien méritée pour ces gens-là et aussi pour les gens qui travaillent à l'usine. Donc ça, il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on voit à la télé, c'est ce qui se passe sur le circuit, mais ça, c'est grâce à des centaines et des centaines de personnes qui travaillent dans chacune des usines respectives. Donc, ces gens-là aussi ont maintenant droit à un congé de 3 semaines. Et sur ces 3 semaines-là, Michel, il y a 2 semaines, on donne de façon imagée qu'il y a un cadenas sur la porte, donc on ne peut même pas rentrer.
À ce point-là, à ce point-là.
Oui, ça, c'est imposé par la FIA et par la Formule 1, donc c'est un 2 semaines obligatoire où est-ce que tout le monde, justement, doit décrocher, donc on ne peut pas travailler sur les voitures, on ne peut pas s'avancer sur rien. Je pense que c'est une bonne chose quand même, parce qu'on...
Des vraies vacances, comme on dit.
Oui, ben,
des vraies vacances.
Il y a quand même de 5 Grands Prix en 6 week-ends. Ouais. Déjà là, c'était une grosse séquence. Comme je te mentionnais, souvent, les gens qui préparent les sites pour les Grands Prix, ça arrive une semaine et demie d'avance, avant que les voitures arrivent, les pilotes arrivent. Fait que je pense que ces gens-là méritent d'avoir un beau 2e pendant la pause.
En fin de semaine dernière, à Spa, à Francorchamps, Grand Prix de Belgique, on a eu une belle démonstration des Mercedes en stratégie, mais ça s'est mal terminé. Disqualification du vainqueur George Russell. Explique-nous ce qui s'est passé.
Bien, absolument. En fait, si on prend un petit peu de recul puis on regarde le début de la course le vendredi, chez Mercedes, on avait amené des nouvelles pièces. Finalement, on les a retirées après la journée du vendredi puisqu'on n'était pas satisfait du rendement. Il y avait de la pluie aussi qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment savoir qui étaient les forces en présence. Mais dans la course, écoutez,
même chez Mercedes, on était un peu surpris de savoir où est-ce qu'on a pris toute cette performance-là, ce qui a fait en sorte que, du côté de chez Mercedes, comme tu l'as mentionné, c'est George Russell qui avait remporté la course. C'est important de le mentionner avec son coéquipier Lewis Hamilton tout de suite derrière. Et Russell a fait une stratégie qui était audacieuse. Donc, on a changé la stratégie en cours de course. C'était pas dans les plans non plus du fabricant de pneus Pirelli d'avoir seulement qu'un arrêt. Mais quand on était rendu à la mi-course, on a dit à Russell, est-ce que tu es à l'aise avec tes pneus? Et Russell a dit oui. Ce qui voulait dire, je vais y aller jusqu'à la fin. Par contre, on sait que les Formule 1, bien sûr, après chacune des courses, ben on a un poids minimal à respecter. Ouais. Sur chacune des voitures, qui est de 798 kilos. Et malheureusement...
Mais qui doit-on pointer du doigt dans l'écurie?
Ben, en fait, il y a quelques facteurs qui ont été expliqués. Premièrement, le fait justement qu'on a changé la stratégie et que Russell a fait beaucoup plus de tours que prévu avec ses pneus. Ben, à chacun des tours qu'on fait, il y a de la gomme qui s'enlève, donc du poids qui s'enlève aussi sur chacun des trains de pneus. Et il y a aussi le fait que, normalement, lorsqu'on termine un Grand Prix, Michel, on fait toujours un tour d'honneur, donc pour saluer les partisans et tout, et on en profite pour rouler sur les côtés de la piste, justement pour ramasser ces résidus-là pour qu'ils collent à nos pneus et avoir peut-être un kilo et demi de plus à l'arrivée. Mais le circuit de Spa-Francorchamps est tellement long avec ses 7 km que tout de suite après avoir franchi la ligne d'arrivée, on fait revenir tout de suite les voitures dans la ligne des puits. Donc, ce seraient les deux facteurs, en fait, qui expliqueraient, malheureusement, qu'il manquait 1,5 kg, malheureusement, à l'arrivée sur la voiture de George Russell. Le règlement est clair. C'est 798 kg. Si c'est moins que ça, c'est la disqualification. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé après une course quand même extraordinaire de George Russell.
En terminant, Jean-Michel, il nous reste une minute. Je regarde le classement des pilotes. Lance Stroll est actuellement classé 10e avec 24 points. Son coéquipier Fernando Alonso, 9e avec 49 points. Peut-il le rejoindre, son coéquipier, au niveau du classement d'ici la fin de la saison?
Ben, honnêtement, je crois que oui, Michel. Parce que dans les dernières courses, quand même, Lance va bien. Donc, sans faire des coups d'éclat, ben, on ne se cachera pas qu'en conduisant la Aston Martin de cette année, c'est vraiment pas une voiture qui est battue. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais je crois que si Lance continue quand même à enchaîner les performances régulières, parce que la régularité en Formule 1, c'est souvent quand même la clé d'un certain succès, ben, je pense qu'il y a peut-être des chances de rattraper Fernando Alonso. Mais en Formule 1, cette année, qui est le fun, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, je pense que les gens ont déjà hâte au retour de la pause estivale parce que maintenant, on ne sait pas qui peut gagner. Donc, ça fait 2 ans qu'on attendait ça et maintenant, on y est. Fait que je pense qu'on va avoir une fin de saison extraordinaire avec les 10 Grands Prix du monde.
Bon, on va te laisser prendre la vraie pause vacances pour la Formule 1. On se retrouve dans 2 semaines. Jean-Michel Tremblay, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, Michel. Bon week-end tout le monde.
Au revoir. On est à 16h27. Le retour s'en vient au 92.5. Au programme sportif, évidemment, il y a les Jeux olympiques. Il nous reste encore une dizaine de jours. Mais ce soir, au football, les Alouettes, 6 victoires, une seule défaite. Puis évidemment, ils ont perdu leur quart arrière régulier. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Ce soir, ils affrontent une équipe qui, après avoir perdu 5 matchs, en a gagné 2, les Tiger Cats de Hamilton. Oh, ce sera pas facile pour les Blue Jays de Toronto en fin de semaine contre les Yankees de New York, une équipe de gros cogneurs, une équipe de super vedettes. Chez nous, au baseball junior, les Voyageurs ce soir au stade Richard Desmeules contre l'équipe de U16. Demain, il y a un beau programme double au stade Desmeules. Et on parle déjà de hockey parce qu'en fin de semaine, la glace est faite là, du côté du centre sportif Mario Tremblay. Il y a le tournoi 3 contre 3. Je peux vous dire que ça va patiner parce que j'ai regardé l'alignement des joueurs. Entre autres, je vais vous en nommer quelques-uns. Là, Samuel Girard, Félix et Sidney Gagnon. Simon Claude Bélanger, des Marquis, Christian Ouellet, Louis-Philippe Simard. Jordan Martel, Olivier Rodrigue, un gardien de but, un autre gardien de but, Samuel Harvey, c'est au centre. Mario Tremblay, 3 contre 3 en fin de semaine. Et puisqu'il est question de hockey, c'est le début du camp d'entraînement des élites midget de Jonquière. Je vous souhaite de la belle température, même si on annonce de la pluie, il y a des possibilités d'orage ce soir et demain. Pour les gens en vacances, profitez-en, il fait beau, il fait chaud, mais attention au coup de chaleur. Prenez de la crème glacée, buvez beaucoup d'eau. Ben ouais, un peu de vin au travers de ça, là, c'est les vacances. Et passez une belle soirée, mesdames, messieurs.
On ferme le vestiaire. De retour lundi, 15h30.